Papa, et non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère. C'est devenu ultra simple, notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme de site web tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canons dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos propres campagnes email. Vous pouvez même vendre vos propres formations en ligne. Donc si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. N'hésitez pas et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline.
Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode de Crème de la Crème. Alors, Crème de la Crème, c'est une conversation où j'invite des hommes et des femmes exceptionnels pour parler de leur réussite. Vous le savez peut-être, je suis moi-même entrepreneur, mais je n'ai jamais eu la chance d'avoir un mentor. Et ça m'a d'ailleurs bien souvent manqué. Alors, Crème de la Crème, c'est simplement ma manière, en quelque sorte, d'essayer de vous apporter les conseils de toutes ces personnes exceptionnelles, qui sont comme des mentors à distance, des conseils vraiment concrets, leurs enseignements, leur philosophie, leurs rituels, tous ces éléments qui, j'espère, vous toucheront et que vous pourrez appliquer à vos propres projets. Crème de la Crème est publiée une fois par semaine et vous retrouverez toutes les notes de l'épisode, les livres à lire, les références, les citations sur le blog du podcast à l'adresse www.podcast-du6crème-de-la-crème.com. Pensez d'ailleurs à vous abonner au podcast pour être bien sûr d'être notifié de la sortie d'un nouvel épisode. Et enfin, si le podcast vous plaît, si à la fin de cet épisode vous dites que quand même vous avez bien aimé ce que j'ai fait et que surtout vous avez appris quelque chose, alors le meilleur moyen de me le dire et de m'aider, c'est tout bête, mais c'est tout simplement de laisser un avis 5 étoiles sur l'application iTunes. En fait, ça fait vraiment une grosse différence, donc si vous avez un petit peu de temps, je vous en serai vraiment très reconnaissante. Passons maintenant à mon invité du jour. Je suis particulièrement heureuse d'avoir réussi à interviewer le lieutenant-colonel Marc Scheffler. Je peux vous dire que réussir à l'avoir sur le podcast n'a pas été une mince affaire, parce que Marc est, comme vous l'aurez compris, un militaire, et plus précisément, pilote de chasse sur Mirage 2000 dans l'armée de l'air. Alors, c'est pas facile de lui mettre la main dessus, parce qu'il est un peu par mont et par vaut, mais je peux vous dire que le jeu en vaut la chandelle, croyez-moi. J'ai découvert l'histoire de Marc complètement par hasard, en lisant les deux livres qu'il a écrits, et je remercie ma tante au passage, parce que c'était complètement improbable comme cadeau. Le premier, La naissance d'un pilote, d'abord qui est un ouvrage vraiment passionnant, même pour des personnes qui n'y connaissent rien à l'aéronautique, et qui retrace son parcours semé d'embûches pour devenir pilote. Le deuxième livre, La guerre vue du ciel, qui parle là de son expérience sur le théâtre du combat en Afghanistan et en Libye. C'est plus technique, mais vous pouvez l'imaginer, c'est tellement vrai, c'est tellement dur, que c'en est absolument unique et impressionnant. J'ai eu envie de donner la parole à Marc et d'apprendre à mieux le connaître, parce que derrière l'image d'Épinal du pilote de jet un peu beau gosse et dragueur à la Top Gun, j'ai été vraiment troublée de sentir que certes, c'était évidemment un homme qui fait son devoir, mais j'ai vu en Marc un amour assez profond pour son travail et une droiture que j'ai trouvée aussi assez unique, qui m'a troublée. Pour moi, en fait, l'histoire de Marc, c'est une histoire qui prouve que vraiment tout est possible, même quand on n'est pas très bon à l'école, même quand on galère en prépa, même quand on n'est pas le meilleur de la classe, de la promo, quand on s'accroche vraiment à ses rêves, qu'on y croit dur comme fer et surtout qu'on ne lâche rien, il en est le symbole même, ça finit par être possible. Je trouve que c'est une assez belle histoire à raconter et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Je vous en dis pas plus, faudra simplement excuser le fait que Marc ne peut parfois pas trop donner de détails précis, parce que vous aurez compris qu'il y a des raisons évidentes de confidentialité. Mais voilà, je laisse donc maintenant place à ma conversation avec le lieutenant-colonel Marc Scheffler. Bonjour Marc.
Bonjour Pauline.
Je suis ravie de vous avoir. Je suis sincèrement ravie. Je dis souvent ça au début de mes interviews, mais avec vous, ça a été compliqué de vous avoir parce que vous êtes quelqu'un de très occupé. Vous êtes pilote, j'en ai parlé dans mon introduction, et commandant dans l'armée de l'air. Donc j'ai vraiment voulu vous avoir parce que j'avais jamais eu la chance d'avoir quelqu'un de l'armée. Et moi, je m'intéresse notamment beaucoup à l'aéronautique. Donc j'étais très, très contente de pouvoir vous parler et que vous me parliez de votre parcours. Donc voilà, tout simplement. Déjà, je voulais commencer par vous dire ça. Et deuxièmement, je voulais commencer par vous poser une question qui est un peu toute bête, mais qui est un peu le début pour moi. C'est tout simplement de savoir ce qui vous a donné l'envie d'être pilote, parce que vous êtes donc, vous avez été pilote sur Mirage 2000 et vous l'êtes encore. Je sais qu'il y a plein d'enfants qui rêvent de ça, mais vous, vous l'avez vraiment fait. Et j'aimerais savoir, en fait, pourquoi vous l'avez vraiment fait et qu'est-ce qui vous a amené à ça?
Alors d'abord, il faut savoir que je viens pas du tout d'une famille ni militaire, ni aéronautique, si ce n'est que mon oncle, un de mes oncles travaillait dans une firme aéronautique allemande, notamment sur un certain type d'avion de combat qui est le Tornado. Et à chaque fois qu'on allait en vacances chez eux, ils nous expliquaient un peu son travail, ils nous amenaient à l'usine, nous montraient les images. Donc je pense que ça a commencé comme ça, tout petit, puisque même moi je m'en souviens pas. Et puis après, c'est, j'allais dire, pour comme pour beaucoup de passionnés d'aviation, c'est les lectures, les magazines, les têtes brûlées, voilà, ça correspond plus à ma génération. Et c'est devenu, j'allais dire, une idée fixe.
Et ça, à partir de quel âge, si c'est pas indiscret?
Alors d'après ma maman, ça doit remonter à l'âge de 5-6 ans.
Ah oui, voilà. Donc quand même, vous êtes tombé dans la marmite voilà. Très très tôt.
Et du coup, c'est devenu, j'allais dire, une idée fixe qui a guidé tout mon parcours personnel et professionnel. Voilà, et les études aussi beaucoup.
Ouais. Je comprends que ça soit une idée fixe, mais donc vous avez écrit des livres, on va en parler, et notamment dans un de vos livres qui s'appelle La naissance d'un pilote, vous dites que vous n'étiez pas forcément le meilleur élève de la classe et que bah justement, on sait que c'est très difficile d'être pilote et c'est un vrai sujet et de rentrer dans l'armée de l'air. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes accroché et qu'en dépit des personnes autour de vous qui vous disaient c'est très compliqué, tu vas pas y arriver, ce genre de choses, qu'est-ce qui a fait que bah, vous avez essayé quand même de tenter votre chance?
Il y a eu plusieurs choses. La première, effectivement, j'étais plutôt un élève moyen jusqu'en seconde, mais toujours avec cette idée, on va dire, de voler un jour à bord d'un avion de chasse. Et le jour où j'ai pris conscience, finalement, des efforts qu'il allait falloir faire pour réussir, je pense que j'ai commencé à me donner les moyens, finalement, ouais. De le faire. J'avais le soutien conditionnel de mes parents, ce qui peut être assez rare, voilà. Ouais. Donc effectivement, les professeurs m'ont encouragé aussi, mais voulaient absolument avoir conscience que c'était une voie difficile dans laquelle les gens ne réussissaient pas forcément et qu'il fallait des plans B. C'était un peu ça le leitmotiv. On m'a jamais vraiment découragé, au moins dans cette phase-là. Voilà, le jour où j'en ai pris conscience, c'est le jour où j'ai décidé de redoubler ma première année, enfin ma première S.
Ah oui.
Pour pouvoir faire une terminale C à l'époque, ouais. Puisque j'étais orienté en terminale D la première fois,
ouais.
avec l'espoir de faire une classe préparatoire derrière, mm-hmm. Et puis le concours de l'école de l'air.
Voilà. Oui, qui est nécessaire.
Et donc là, la décision a été prise, et puis j'ai eu...
Alors que vous auriez pu rentrer en terminale C, c'est ça, au lieu
terminale D initialement, et puis passer un bac D.
Moi, je suis à l'époque des S, moi, pour ça, je...
Donc nous c'était le on va dire la voie qui permettait d'accéder aux classes préparatoires, ouais. C'était la terminale C. D'accord. Qui était orientée sur les mathématiques et moi j'étais plutôt bon en physique, on va dire, donc logiquement c'était une terminale D. Voilà, ça a été un déclic, je pense que c'est le déclic que beaucoup de parents attendent chez leurs, ouais. Enfants, puisque moi je suis confronté à cette situation là et du jour au lendemain en fait je me suis mis à retravailler d'arrache-pied. Je me suis rendu compte en redoublant qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais pas compris la première année, que je comprenais finalement beaucoup mieux la deuxième, et on va dire du fin de deuxième tiers du classement de la classe, je me suis retrouvé dans les 3-4 premiers. Voilà, et donc on va dire il y a une espèce de boucle vertueuse qui se met en place, et après on a envie.
Vous avez commencé à y croire.
Exactement. Voilà. À partir de ce moment-là, je me suis dit finalement c'est pas inaccessible.
Ouais.
Et vraiment, je me suis donné les moyens d'y arriver. D'accord. J'ai beaucoup travaillé, notamment en classe préparatoire, qui a été un passage un peu rugueux.
Bon, voilà. Alors, moi aussi, j'en ai fait une, donc je sais que c'est souvent douloureux, franchement. Mais est-ce que vous pouvez justement me parler un petit peu de cette période? Vous en parlez beaucoup dans votre livre, La naissance d'un pilote, et je trouve que ça sonne très, très juste. On sent vraiment que ça a été difficile. Je trouve ça d'ailleurs assez rafraîchissant de se rendre compte que même quelqu'un comme vous qui avait réussi est passé par des vraies périodes, non seulement de doute, mais de travail, où franchement, c'était pas sûr que ça marche. Qu'est-ce qui vous a fait tenir dans le temps, finalement, pendant cette période où, franchement, c'était pas gagné?
J'étais... il faut savoir déjà que pour être sûr que je me trompais pas de voie, ma maman, à l'époque, m'avait inscrit dans un aéroclub pour que je fasse quelques heures de vol. Et effectivement, j'étais happé par le virus de l'aviation. Je trouvais ça magique. En parallèle, finalement, je me disais que c'était quelque chose qui devenait accessible. Et à partir de là, c'est devenu un objectif fixe, l'objectif d'une vie. Et je concevais pas de faire quoi que ce soit d'autre.
Ouais.
Et donc.
Il n'y avait pas le choix, quoi.
Il fallait réussir. Alors, le plan A, c'était effectivement de passer par le concours de l'école de l'air, donc post-classe préparatoire. Et après, l'armée de l'air offre d'autres voies pour rentrer comme pilote, notamment avec un simple bac, hein. Il faut connaître cette voie-là. Mais ça restait, je dirais, le plan B dans le sens où, en passant également ce concours-là, ça me donnait un statut d'officier de carrière, des perspectives d'avancement, des postes à responsabilité. Donc, je voyais au-delà du simple pilotage d'un avion de chasse tout ce qu'il pouvait y avoir derrière. Mmh. Voilà. Donc, je suis resté là-dessus et je me suis accroché du mieux possible.
Et vous avez parlé il y a quelques instants, et je peux pas ne pas dire ça parce que j'adore l'aéronautique aussi. Donc, vous aviez commencé aussi par aller dans un aéroclub et juste apprendre sur un DR400, je crois, c'est ça. Donc
c'était un HR200 à l'époque, à l'aéroclub de l'Hérault, avec un instructeur qui était pilote de ligne civile, mais qui auparavant avait été pilote militaire. Et qui m'a, j'allais dire, dès le départ, mis dans le bain de ce que je rencontrerai un petit peu plus tard, à la fois en termes d'exigences de connaissances théoriques, et oui. M'a bien massé, pour reprendre une expression consacrée chez nous, en vol. Mais ça m'a plu, en fait, ce cadrage, cette façon de piloter, la rigueur.
Même quand on est pilote privé, sincèrement, moi, j'ai la sensation que la discipline est quand même assez clé, parce que, mine de rien, on joue sa vie à chaque instant quand on est pilote, malgré tout. Enfin, il y a une notion de responsabilité qui est super forte. Et j'aimerais savoir, dans le pilotage, même à un niveau d'un petit avion comme ça, qu'est-ce qui vous plaisait, en fait? Parce que là, tout de suite, quand vous en avez parlé, j'ai vu vos yeux s'éclairer. Et je me suis dit, et dans le livre, ça se sent sincèrement. Et j'avais envie de comprendre, indépendamment du rêve de môme dont vous avez parlé, qu'est-ce qui vraiment vous a plu? Parce qu'on aurait pu penser que, visant un Mirage 2000, le petit avion comme ça, entre guillemets, tout pourri, vous en fichiez. Et j'ai pas cette impression.
Il faut bien voir que la plupart d'entre nous, quand même, ont fait leurs premières armes en aéroclub. Voilà, ça reste quand même des antichambres, hein, de formation et de recrutement pour l'armée de l'air. Donc voilà, effectivement, on est le deuxième pays aéronautique au monde après les États-Unis. Donc on a une grosse culture aéronautique. Après, moi, ce qui m'a plu, ça remonte à un petit peu loin, mais je dirais ne serait-ce que de prendre de la hauteur, ouais. Déjà, de voir les choses d'en haut, d'avoir une liberté. Dans la troisième dimension, de s'affranchir des routes, de tout ce qui barrière un petit peu ce qu'on a au sol. Et après, moi, ce que j'ai adoré finalement, c'est petit à petit apprendre à maîtriser la machine. Au départ, on est un peu sur la défensive.
Ouais.
Et on va dire, même le jour du lâcher qui arrive, souvent l'instructeur ne dit pas à son élève quand il va être lâché pour éviter que
le lâcher, c'est le jour où la personne est laissée seule pour la première fois et pilote aux commandes. Voilà. Ouais.
Donc ce jour-là est un jour important dont on se souvient comme beaucoup de premières fois. Et pour le mettre en confiance, le lui dit pas forcément. Voilà.
Désolé, notre petite machine à café fait des siennes. Bon, désolé pour le petit intermède détartrage. On reprend sur le lâcher, donc, vous me disiez.
Donc voilà, surpris. Et puis avec du recul, ce sont des phases de vol... où on prend une confiance en soi extraordinaire. C'est-à-dire qu'on confie un avion, même un petit avion, pour la première fois. Et là, vous jouez sans filet, en fait. Vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous pour vous dire comment faire. Donc ça reste un superbe souvenir, comme pour beaucoup d'entre nous. Voilà.
C'est assez magique, c'est sûr. C'est assez magique. Et puis surtout, comme vous dites, finalement, vous êtes seul à bord, vous êtes responsable
exactement.
De votre intégrité, de l'intégrité de votre avion. Un jour, si jamais vous avez des passagers, de vos passagers. Et cette notion, finalement, aujourd'hui, on la vit pas tant que ça, parce qu'on a souvent des choses pour nous baquer un peu dans tous les sens. Et c'est vrai que l'aviation, de ce point de vue-là, c'est à la fois la liberté, mais en même temps, une énorme responsabilité, et je trouve ça assez fascinant, franchement.
Il y a un moment donné, il faut se jeter à l'eau, mais c'est très structurant, très très gratifiant. Voilà, moi, j'en garde un souvenir.
Et vous diriez que même pour quelqu'un, alors il faut être passionné d'aéronautique, mais même cette première partie, on va dire, qui est assez une partie novice, d'apprendre à piloter un avion, vous diriez que ça vous a apporté des choses personnellement avant même de commencer à travailler
Oui, de confiance, j'allais dire, à ce petit niveau-là, mais qui est importante d'un point de vue personnel, une confiance dans le fait que finalement j'étais peut-être fait pour ce métier-là
ce qui est déjà et que une bonne chose.
En plus de tout le reste dont je parlais au début, il y a cette espèce de dynamique extrêmement positive qui s'est insinuée au plus profond de moi et qui m'a dit tu peux le faire, ouais. donc vas-y.
Vous voilà, avez quelqu'un qui vous a dit que vous pouviez le faire, c'est souvent le plus important.
Exactement.
Et alors, j'ai lu donc, que vous êtes rentré dans votre livre, vous dites que vous entrez à l'école des pupilles de l'air. Là aussi, j'ai été assez marquée dans votre livre par le fait que vous vous accrochez, que vous battez, que vous travaillez. Une fois de plus, en fait, je comprends que vous avez toujours cet objectif à terme, mais qu'est-ce qui fait qu'après toutes ces difficultés, donc on redouble, on y va, ensuite, vous, d'après ce que je comprends, vous êtes rentré sur liste d'attente, à la rigueur, je veux bien que vous m'en parliez aussi, mais qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois comme ça, vous continuez, vous arrêtez jamais? Je trouve ça assez fascinant.
Des petits signes. Voilà, vous êtes sur liste d'attente, mais vous êtes très haut placé dans la liste d'attente, donc vous vous inquiétez, mais il y a une petite voix qui vous dit que ça va passer. Voilà, donc il faut écouter cette petite voix. Un premier signe. Après l'école des pupilles de l'air, c'était vraiment et ça l'est toujours une préparation qui est vraiment tournée sur le concours de l'école de l'air. Et à partir du moment où on rentre à l'école des pupilles de l'air, on sait que tout est tourné dans la formation pour la réussite vers ce concours. Mmh, donc c'est l'endroit idéal pour préparer ce concours-là. Et après, ça a été 3 années assez paradoxales finalement, parce qu'elles ont été effectivement difficiles sur les maths hein, essentiellement. Mmh. Moi, j'étais plutôt bon en physique et donc ça m'a demandé beaucoup de travail. Et je dis paradoxal parce que je quittais pour la première fois mon petit cocon familial pour me retrouver dans un internat militaire, parce qu'on rentre aussi dans un cycle. Forcément, on appréhende, et puis je me suis retrouvé finalement dans un environnement à la fois cocon mais assez strict qui me convenait bien pour les études.
D'accord.
Et puis c'est là que j'ai rencontré j'allais dire des amis de toujours, puisqu'on était tous dans la même galère sans esprit de compétition, parce ouais. que on était tous tirés vers cet idéal d'être un jour à bord d'un avion militaire. Et donc il y avait beaucoup de cohésion, beaucoup d'entraide. Mmh. Donc difficile d'un côté, et puis c'est là où j'ai fait les plus belles rencontres dans l'adversité. Ça fait un mix finalement qui m'a fait tenir. Voilà, qui m'a fait tenir sur ces 3 années-là. Et évidemment, j'ai pris quelques coups en mathématiques, mais après à côté de ça. J'étais plutôt littéraire et puis pas trop mauvais en langue non plus. Donc j'ai quand même une bonne partie de mes professeurs qui m'ont encouragé à ne rien lâcher.
D'accord. Voilà. Ça, c'est aussi le soutien. Et puis, je pense, le fait que d'autres personnes croient en vous
Exactement.
Aussi, ça aide quand même énormément.
Exactement.
Il y a une vraie responsabilité.
L'image qu'on vous renvoie dans la confiance qu'on place en vous, c'est essentiel pour...
Vous passez le concours.
Oui.
Vous réussissez.
Oui.
Et donc, vous rentrez... à l'armée de l'air. Vous êtes dès ce moment-là, en fait, on
voilà.
est considéré comme
Alors, une fois que vous avez réussi le concours, vous rentrez comme élève officier du personnel navigant, puisque j'ai été recruté avec les critères pour être personnel navigant, parce qu'on ne rentre pas chez nous pour être pilote de chasse. Hein.
Ouais,
on rentre comme personnel navigant. Alors, je connais pas un de mes camarades qui ait finalement choisi une autre voie ou contraint de faire une autre voie,
d'accord.
qui, après coup, regrette.
Oui, d'accord.
Pas un. Voilà, tous ont les yeux qui brillent, chacun est parfaitement épanoui dans son parcours. C'est juste qu'on idéalise un métier alors qu'il y a plein d'autres opportunités à côté, et que ce soit les hélicos ou les avions de transport. Chaque fois qu'on se recroise en promotion, tout le monde évidemment parle avec passion de ce qu'il a pu faire. Mais donc je suis rentré comme élève officier du personnel navigant à l'école de l'air, et là j'ai subi, alors à l'époque c'était 2 années de formation, puisqu'on valide tout ça par un diplôme d'ingénieur. Donc, c'était
à la fois des études, et en même temps, vous commencez réellement les études de pilotage aussi à ce moment-là.
Alors, sur ma période à moi, ça a un peu changé maintenant, mais on pourra y revenir. Une fois qu'on avait réussi le concours, qu'on a intégré l'école de l'air, on passait quand même par des phases de sélection en vol. En fait, alors c'était des stages pronostiques, où on allait faire donc du Cap 10, on allait faire du planeur.
Vous pouvez m'expliquer ça pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est?
Alors le Cap 10, pardon, c'est un biplace bien connu de voltige qu'on retrouve dans la plupart des écoles de voltige en aéroclub, hein, par exemple. C'est un petit un petit avion en bois étoile avec un...
Mais qui a un bon petit moteur.
Un bon petit moteur, un bon rapport puissance-poids, biplace côte à côte, qui est très bien pour se retourner la crêpe, comme on dit chez nous, qui est assez technique dans ses phases de décollage et surtout d'atterrissage, qui a un vrai plaisir à piloter une fois qu'il est en vol, mais qui permet quand même de voir ce que si les élèves sont faits pour la troisième dimension.
Mais alors ça, justement, je trouve ça assez fascinant, parce que donc, vous aviez quand même déjà votre brevet de base de pilote à l'époque.
Et un brevet de planeur que j'avais passé
à l'école. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a une anecdote, je me note de vous la demander parce que j'ai trouvé assez génial dans votre livre. Mais du coup, comment est-ce que... Enfin, est-ce qu'il y a des personnes qui sont douées? Est-ce que c'est du travail? Comment est-ce qu'à un moment donné, pendant ces épreuves-là, qui sont des épreuves vraiment de pilotage, on différencie en fait les bons des mauvais? Et parce qu'il y a une sélection qui est faite, comme vous dites. Et du coup...
Alors à l'époque, donc, c'était un pronostic. Donc ce n'était pas sélectif au sens où si on vous disait vous n'êtes pas fait pour ce métier-là, comme statutairement vous étiez rentré comme personnel navigant, on ne pouvait pas vous éliminer.
D'accord.
En général, ceux qui avaient un pronostic mitigé ne passait pas, on va dire, les premières phases de la formation qui vient ultérieurement. Après, sur le stage pronostique, finalement, il n'y a pas de phase de décollage ou d'atterrissage. On vous met dans l'avion, on vous amène sur un secteur. On va vous montrer une fois, par exemple, comment on fait une boucle, un looping.
Ouais. Une fois.
On vous le montre une fois. Et puis et après, on vous demande de restituer. Voilà. On vous le remontre une deuxième fois en vous expliquant comment vous pouvez améliorer votre pilotage, et vous le refaites une deuxième fois. Et ce que les instructeurs regardaient à l'époque, c'était à la fois l'aisance dans la troisième dimension, c'est-à-dire est-ce qu'on a bien vu qu'on était passé sur le dos, est-ce qu'on est toujours sur l'axe, comment on est aux commandes, si on n'est pas trop nerveux, des choses comme ça. Et après, ils regardaient comment on avait amélioré la première boucle par rapport à la deuxième, c'est-à-dire est-ce qu'on avait bien intégré ce qui avait été dit pendant cette phase-là, pour voir si la personne est capable de suivre tout simplement une phase de progression qui a, on va dire, qui a une courbe assez importante.
Bah, c'est ça qui est, je trouve, très marquant dans votre livre et dans ce que vous me dites, c'est qu'il faut quand même assimiler et restituer
assez vite,
extrêmement vite. Oui. Enfin, entre une boucle, enfin voilà, moi je trouve ça assez hallucinant. Souvent on se dit l'apprentissage, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, et moi je suis évidemment la première à dire que le feedback est hyper important pour apprendre, mais je trouve souvent qu'il faut un petit temps aussi de compréhension, de se dire ok, j'ai fait une erreur, mais alors essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de cette erreur et justement après progresser. Là, en fait, ce qui est, je trouve, assez marquant dans vos études et du coup je trouve très impressionnant, c'est qu'on vous dit bah là voilà ce qu'il faut changer, et vous devez le changer tout de suite, quoi, concrètement.
Alors, sur la phase de pronostic, oui. À partir du moment où on a commencé la phase d'instruction en vol, où on a déjà, on va dire, écrémé une partie des gens, donc on rentre dans le tuyau de formation, ceux sur qui l'armée de l'air mise, à partir de là, alors déjà, les vols, on a des manuels de théorie, pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Les vols sont progressifs, c'est-à-dire qu'on retrouve la même cinématique en aéroclub, c'est-à-dire d'abord de la manie à avion, ensuite des tours de piste. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut commencer à envisager le lâcher. Une fois qu'on a fait le lâcher, on commence à naviguer. Voilà, et puis en fait, c'est reste assez progressif. Après, le principal, principal challenge de toutes les armées qui forment au pilotage ou qui forment dans les métiers un peu techniques, c'est finalement le compromis entre le temps de formation et ce que ça coûte.
Bah oui.
Voilà, tout simplement. Donc le flux est calculé pour, on va dire, une courbe de progression qui va assez rapide, qui reste quand même extrêmement progressive, mais derrière il y a de l'accompagnement, mais ça reste un compromis.
Oui, donc bien sûr.
Vous pouvez, j'allais dire, en mettant un paquet d'heures de vol, finalement n'importe qui va pouvoir apprendre à piloter un avion, faire de la voltige ou des choses comme ça. Le problème des armées, c'est le coût.
Bien
sûr. Il faut que cet apprentissage se fasse dans un temps
assez rapide, ouais.
C'est rapide, un temps raisonnable pour qu'on ne soit pas obligé de payer 15 heures de vol supplémentaire à quelqu'un qui, visiblement, n'est pas fait pour ça.
Oui, bien sûr.
Qui rencontre trop de difficultés.
Et ça, si vous avez vu des personnes autour de vous réussir ou échouer, qu'est-ce qui, selon vous, faisait que certains, justement, réussissaient plus? Donc, vous m'avez dit probablement la capacité d'apprentissage, mais au-delà de ça, est-ce qu'il y avait un type de personnalité, peut-être du travail en plus, je ne sais pas?
Vous avez toujours, dans une promotion, celui ou la poignée qui survole la formation.
Le surdoué.
Ce qu'on appelle les extraterrestres. Hein, ils sont,
donc, ça existe vraiment, quand même.
Il y a des gens qui sont un cran au-dessus des autres.
Mais parce qu'ils ont travaillé. Moi, ça me fascine toujours, cette idée de se dire, est-ce que les gens sont doués naturellement ou en fait, c'est juste du travail ou une compréhension.
Je pense que c'est des choses qui viennent du plus profond de leur enfance, sur le capital confiance, sur leur aisance, sur l'environnement peut-être aéronautique, hein, qui les a.
Si ses parents étaient
pilotes. Voilà, exactement. Donc tout ça fait que on modifie peut-être un peu l'ADN. Donc ils ont des facilités, clairement. Après le gros des troupes, je dirais. C'est un petit peu comme moi, c'est-à-dire il faut c'est beaucoup de travail, des laborieux. On va y arriver dans le temps imparti, mais c'est surtout de la niaque et il faut s'accrocher. Après, dans ceux qui ont échoué, souvent c'est quand même une démotivation par rapport à peut-être ce qu'ils avaient imaginé. Hein, c'est des métiers qui restent on va dire dans l'esprit de beaucoup de gens, on a toujours tout ce qui est ultra médiatisé ou les films qu'on a pu voir au cinéma qui déforment fortement la réalité.
Ça n'est pas Top Gun dans la vraie vie.
Non, c'est pas l'entraînement et les phases d'entraînement, tout ce qui est combat aérien, tout ce qu'on peut voir dans le film, on va dire les sensations en vol, tout ça, oui. Après, le reste à côté, c'est évidemment de l'histoire. Mais voilà, à un moment donné, ils sont déçus et c'est comme ça reste un métier passion. Si vous avez plus la flamme, forcément ça va pas marcher. Voilà, souvent c'est ce qui se passe.
Alors on revient, si ça vous dérange pas, Marc, sur cette petite anecdote de planeur que j'ai lue dans votre livre et que j'ai trouvé assez rigolote. Si je me rappelle bien, donc vous étiez déjà pilote sur planeur à l'époque.
J'étais dans ma formation de pilote de planeur.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Je pense que une partie aussi des qualités qu'on recherche chez les gens dans ce métier, c'est l'aspect un peu joueur. Alors ouais. J'ai pas dit tête brûlée parce que ceux-là sont éliminés quoi qu'il arrive au cours de la formation, mais vous êtes forcément un peu joueur. Et puis j'allais dire le ce qu'on appelle un petit peu le phénomène de surconfiance ou de trop de confiance en soi qui frappe tous les pilotes que j'ai rencontrés à un moment donné. On estime qu'on est un peu meilleur que ce qu'on est réellement. Et donc je me suis fait avoir sur l'aérologie, je me suis retrouvé du mauvais côté d'une crête avec mon planeur dans une masse d'air descendante. C'est effectivement, c'est pas passé loin. Voilà.
Vous aviez un peu trop la confiance, quoi, ce jour-là.
Je me suis dit, ça passe. Voilà. Et puis, je vais rester correct. Donc, j'emploierai pas les termes qu'on emploie chez nous. Mais je me suis fait avoir bêtement. Et puis, ça aurait pu avoir d'autres conséquences.
Et comment vous en êtes sorti? Parce que les planeurs, il faut attendre des ascendants, de l'air chaud, quoi, tout simplement.
C'est ça, de l'air chaud ou du vent qui vient frapper des pentes. Mais donc là, c'était sur les versants quand on est dans les montagnes. Souvent, vous avez un versant éclairé ou qui est au vent, qui va vous faire monter, et puis le versant qui est de l'autre côté, qui vous fait dégueuler, hein, pour reprendre le terme. Et donc là, je me suis fait dégueuler de l'autre côté, et j'ai eu la chance finalement. D'entourer un petit peu ces crêtes et de trouver un petit passage pour rentrer au terrain. Donc j'étais évidemment pas très fier, j'ai droit à une bonne remontée de bretelles. J'étais content de rentrer et puis je dirais ça illustre un petit peu aussi ce métier où on apprend beaucoup de ses erreurs. Donc j'ai appris ce jour-là à me méfier de moi puisqu'il faut aussi se connaître, hein. Donc, ça fait partie aussi de l'apprentissage.
Bien sûr.
Voilà. Mais ça s'est bien passé, bien terminé.
Malheureusement, quand on fait jamais d'erreurs, c'est plus difficile d'apprendre aussi par le
système. Exactement.
Ça, on dit pas
voilà.
Assez.
C'est vraiment un métier où on apprend par la formation, évidemment. On apprend énormément en écoutant ses instructeurs, les anciens, raconter justement les bêtises qu'ils ont faites et comment ne pas les faire. Et puis, j'allais dire, c'est aussi un métier où malheureusement, on apprend énormément de ses erreurs, à la fois sur ce qu'il faut pas faire. Et sur ce qu'on est capable de faire, et puis nos vulnérabilités aussi. Voilà, donc tout ça mis bout à bout. J'allais dire, je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous parler.
Bah, justement, c'était une des questions que je voulais vous poser, parce qu'un métier comme le vôtre, encore, on n'a pas du tout abordé, on va y venir, la période plus donc sur des avions un petit peu plus sophistiqués. Mais est-ce que vous vous êtes déjà fait peur? Donc, il y a eu peut-être ce moment, justement, avec le planeur, mais c'est quand même un métier où on se dit... Il doit y avoir des moments quand même où vous dites là qu'est-ce que je fais quoi, est-ce que je perds le contrôle, enfin alors peut-être pas perdre le contrôle de la machine, mais ça a été quoi votre plus grande peur?
Alors est-ce déjà perdre le contrôle de la machine, ça nous est tous arrivé parce que ça fait aussi partie
d'accord,
de la formation.
Bah c'est rassurant,
voilà,
aussi de
ce qu'on vous amène, ce qu'on appelle faire les coins du domaine, c'est-à-dire qu'on vous amène quand même à piloter les aéronefs jusqu'à leur limite.
Ouais.
Voilà, et quand on vous laisse les commandes et que vous allez titiller ces limites là Ça nous est tous arrivé de les dépasser et là l'avion effectivement on en perd le contrôle, mais on nous a aussi appris à le récupérer. Donc du coup c'est moins violent et moins stressant que ça pourrait y paraître. Les gens me posent souvent la question de la décharge d'adrénaline, des sensations. Donc effectivement ça reste une activité à forte sensation. Il y a des phases où on passe des crampes psychologiques, hein, vol en formation à quelques mètres, le ravitaillement en vol, c'est pas naturel. Souvent on se dit on va pas y arriver, et puis finalement on se dit les autres y arrivent, donc je vais y arriver aussi. Voilà, la seule fois vraiment où je pense où c'était de l'adrénaline pure, c'est quand mon moteur s'éteint lors d'un combat aérien, et là j'en ai qu'un sur Mirage 2000, et où en fait le temps d'analyser, de comprendre ce qui se passe, de lancer la procédure de redémarrage comme au simulateur, qui prend une quarantaine de secondes, et en fait, c'est... l'adrénaline, ça vous dilate le temps. C'est-à-dire que
vous avez
l'impression tout se passe au ralenti. Mais quand je dis, c'est assez extraordinaire ce que peut faire le cerveau humain, à tel point que ces 40 secondes-là, finalement, qui sont rien, m'ont paru mais une éternité. Et j'ai eu le temps de revérifier 3 fois la procédure de redémarrage, qui prend déjà
en 40
secondes, pour être sûr que j'avais rien oublié dans la procédure et essayer de comprendre pourquoi ça redémarrait pas.
Vous avez quand même eu le sang-froid, parce que moi, c'est ça ce que je trouve fascinant. Votre moteur se coupe, vous êtes en combat aérien et vous allez me dire que vous êtes formé pendant des années pour faire ça, mais quand même, vous arrivez à avoir le sang-froid de checker votre checklist 3 fois, quoi.
On est
formaté presque.
On est formaté par le simulateur.
Ça devient presque un réflexe à la fin.
En fait, on a des échéances, mais comme tous les pilotes, alors là, c'est pas spécifique au métier de pilote militaire, hein. On a des échéances annuelles avec notamment des simulateurs de panne où on apprend à gérer les pannes. Et en fait, à partir du moment où on a un certain type de voyant, on va analyser ce qui se passe avec l'avion, ça va nous orienter sur une panne, et on a des pannes réflexes. En fait, on doit savoir redémarrer un moteur en secours, rattraper l'avion si il est sorti de son domaine de vol. Et là, on est vraiment dans l'action réflexe, mais normalement, on est censé le maîtriser. En tout cas, les moniteurs simulateurs qu'on a dans l'armée de l'air s'assurent, quel que soit le grade et l'expérience, qu'on les maîtrise. Voilà. Et c'est pas toujours. L'ego peut en prendre des fois un petit coup sur le. Voilà.
Mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir un cas qui n'avait pas été traité en simulateur et où vous avez dû prendre des décisions? J'imagine que oui.
Pas sur les pannes, pas sur l'envol, j'allais dire normal.
Voilà.
Après, en opération, on s'entraîne, on peut simuler, mais on est dans des situations où on va s'entraîner blanc-noir, et puis dans la réalité, c'est toujours dans la zone grisonnante où effectivement on est hors du cadre. En tout cas, il faut l'analyser. Là, il y a des décisions à prendre, mais pas dans l'utilisation de mon aéronef. J'ai jamais eu de quelque chose qui où j'ai pas compris ce qui se passait en fait.
En fait, au final, ce que vous dites, c'est que toute la formation que vous faites pendant ces 7 années, parce que c'est quand même un temps. Enfin, on en parlait juste avant de commencer. C'est quasiment, c'est même aussi long que d'être médecin. C'est 10 années d'études. C'est en fait, vous créez des réflexes, des routines pour que vous soyez en mode presque automatique en cas de panne, pour que vous ayez la présence d'esprit et l'esprit libre pour ensuite prendre des décisions le jour où vous avez à vous adapter parce que vous êtes en combat, si je comprends bien.
Voilà, alors on se méfie du terme automatique, parce que pour nous c'est un terme dangereux, puisque en fait quand vous avez trop automatisé votre façon de penser, vous avez des biais en fait qui se créent dans votre analyse d'une situation. Donc on vous met en situation, on vous apprend à traiter les pannes. Par contre, on vous apprend aussi, on fait pas mal de simu-saturation, c'est-à-dire qu'on va enchaîner plusieurs pannes au simulateur, qui conduisent généralement.
Parce qu'on dit souvent d'ailleurs que les accidents, malheureusement, c'est pas quand il y a une panne, c'est quand il y a deux, trois.
Non, c'est un enchaînement de plusieurs choses. Et là, en fait, ce qu'on essaye de pousser les équipages, on va dire, à voir plus loin que la première panne, et à aiguiser un peu l'analyse de la situation, puisque à la base, quand vous parlez de sang-froid, c'est, j'allais dire, quand vous commencez à avoir des voyants lumineux, des alarmes sonores qui s'allument dans un avion, c'est vraiment à prendre ces 2-3 premières secondes pour analyser ce qui se passe, savoir ce qui se passe pour prendre après les bonnes décisions.
Et puis ne pas quand même se laisser submerger par l'émotion, j'imagine quand même, d'un truc imprévu.
Bon, alors passer, quand on arrive sur un avion, alors que ce soit un Mirage ou des hélicoptères en escadron opérationnel, normalement on a passé tous les filtres qui font que
Vous n'êtes pas censé
paniquer. Voilà. Bon, on va dire ça comme ça.
J'avais une question assez bête, mais une journée de formation type, quand vous étiez par exemple à Tours sur la base et que vous commenciez à donc piloter des Alpha Jets, c'était quoi pour qu'on ait, on se rende compte un petit peu, je trouve, de la densité de ce que vous faisiez chaque jour.
Alors la journée type à Tours, c'est la même journée qu'en école de début à Salon, et c'est la même journée que celle que vous avez en escadron de chasse.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle l'acculturation en fait, c'est-à-dire que dès que vous mettez un pied dans le tuyau de formation, dès votre premier jour à l'escadron, on vous met dans le rythme, escadron de formation, dans le rythme que vous aurez dans l'unité opérationnelle.
D'accord.
Voilà, comme ça vous êtes déjà dans un environnement que vous connaissez. Une journée type, généralement, c'est... on va arriver vers 8h moins le quart le matin pour se changer, commencer à discuter.
Vous dormez sur la base en général, dans ce genre de cas ou pas ?
Alors, les premières années, les toutes premières années, quel que soit le recrutement, on doit dormir sur base.
D'accord.
Voilà, donc l'école de l'air, c'était un internat. Maintenant, ce sont des chambres individuelles, hein, puisqu'il faut aussi évoluer. Donc, on est en chambre individuelle, d'accord, on va dire ça comme ça, mais sur base. Et après, petit à petit, on vous lâche la grappe. Et voilà, c'est exactement ça. Mais c'est là où se créent les liens, finalement.
C'est
pas tellement fait pour surveiller les gens ou parce qu'on pense que les gens sont pas capables de vivre à l'extérieur. C'est pour créer l'esprit de groupe. Voilà, c'est vraiment pour ça, parce que vous mélangez les gens. Les gens sont voilà, se croisent le soir, discutent, et après quand ils partent à l'extérieur, finalement, ils gardent ces liens et il y a pas de on veut absolument éviter tout ce qui est individualité. Donc, mais pour reprendre votre question, on arrive le matin, on va dire une journée commence à 8h, donc forcément un petit peu avant. 8h15, vous avez ce qu'on appelle le briefing météo, donc la plateforme, l'escadron qui s'occupe de la météo vient vous présenter la météo pour la journée. La plateforme, on vient vous expliquer, pardon, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas sur la base aérienne. Voilà, dans les escadrons école et lorsque vous êtes jeune en escadron de chasse. Ensuite, vous passez à la question du jour, que je détaille un petit peu, où effectivement, on va vous demander de réciter au hasard, ou des fois, des questions sont préparées à l'avance, une procédure d'urgence. Voilà,
et on a compris qu'il fallait pas se planter.
Il faut pas se planter, voilà. Vous êtes non, c'est les phases où vous avez pas le droit, devant tout l'escadron, de montrer que vous connaissez pas le rallumage d'urgence. C'est là où, en fait, vous allez pas faire long feu dans l'unité ou comme élève. Généralement, ensuite, vous allez préparer votre vol. Alors, en fonction des vols, ça peut aller d'une petite préparation d'une demi-heure, jusque pour les vols un peu plus compliqués, navigation, ça peut aller jusqu'à une heure et demie. En général, vous avez entre 30 et 40 minutes de briefing, pas plus, parce qu'au-delà, de toute façon, les gens, l'élève, l'imprime plus, ouais, hein, voilà, tout simplement. Vous partez pour une heure et demie de vol, en général. Autour du vol, vous laissez un petit quart d'heure de répit, et ensuite, vous vous embrayez sur un briefing dont la longueur dépend de la performance de votre vol. Donc voilà, ça peut aller d'une demi-heure à 3 heures lorsque vraiment il y a beaucoup de choses à dire. Et puis en parallèle, alors quand on est élève, vous avez des cours d'anglais, vous avez du sport, voilà. Après, quand vous êtes en escadron, vous avez toujours du sport, mais vous avez des astreintes, vous avez ce qu'on appelle des tâches secondaires à effectuer au niveau de l'escadron pour le bon fonctionnement.
D'accord.
Donc les journées peuvent être assez denses. Ouais. Voilà.
Ça marche. Mais écoutez, on a beaucoup parlé là de comment devenir pilote, et je pense que si des personnes se posent des questions sur un peu les qualités requises, etc., ils ont eu quand même pas mal de réponses. Moi, il y avait juste un truc que j'avais envie de vous demander, c'est bête et méchant, mais qu'est-ce que ça fait la première fois que vous montez dans un Mirage 2000 ?
Ce qui est paradoxal, c'est que c'est plutôt au retour du vol que vous savourez finalement ce que vous venez de vivre.
Parce qu'au début, vous êtes évanoui tellement.
Et vous êtes tellement concentré. Voilà, j'allais dire, c'est vous avez la pression avant, comme les artistes, je pense, avant de rentrer sur scène, ou un sportif de haut niveau qui se prépare. Il y a le petit stress avant d'être dans les starting blocks. Et puis, une fois que le coup de feu est tiré, c'est... voilà, le coup de feu est tiré, il n'y a plus de questions à se poser. On est conditionné pour ça, donc on est un peu, j'allais dire, un peu quand même dans un monde parallèle. Hein, mais on le savoure pas. Alors si, après, en vol, vous regardez derrière vous regardez en bas, et si vous dites, ça y est, je vole dans un Mirage 2000. Voilà, je suis arrivé jusque-là.
Ça doit être une émotion quand même assez forte, bon, notamment dans votre livre.
C'est une grande fierté.
Voilà, le jour où on vous dit... Ouais. J'ai beaucoup aimé ce passage dans votre livre où on vous dit que vous allez pouvoir être pilote sur Mirage 2000, ce qui est, je sais pas quelles sont les statistiques, mais c'est quand même extrêmement faible au sein des personnes qui ont été recrutées dans l'armée de l'air, parce que c'est un peu les postes, c'est des postes qui sont très demandés, d'après ce que je comprends. Enfin, j'imagine que l'émotion, elle doit être dingue.
L'émotion, voilà. Alors le stress de ne pas casser l'avion déjà. Hein,
ce qui coûte un petit peu cher.
C'est comme le lâcher, on revient toujours au lâcher. Hein, la première fois, vous partez seul avec votre Mirage 2000. vous êtes forcément un petit peu, alors vous êtes en totale confiance, mais c'est vrai qu'une fois qu'on est là-haut, qu'on regarde en dessous, qu'on se dit que c'est finalement moi qui suis harnaché au bout des 13 tonnes de métal. C'est quelque chose qui est difficilement descriptible. Voilà.
Bon, pour enchaîner maintenant sur sur votre carrière militaire et notamment ce que vous décrivez donc dans votre livre La guerre vue du ciel, qui est un livre qui est assez admirable, je trouve. Vous y retracez votre parcours de pilote en Afghanistan, en Libye. Mais déjà, j'avais envie de vous poser une première question qui est qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ?
Alors, l'idée, elle est venue, j'allais dire, un petit peu sur un coup de tête, puisque l'année 2011, pour nous, a été une année extrêmement dense hein, pour l'armée de l'air entre l'Afghanistan et puis la Libye. Et je suis tombé un peu par hasard sur un livre écrit par un Anglais qui racontait un petit peu sa guerre en Afghanistan vue du sol avec le support des appareils de combat.
D'accord.
Et il a deux passages sur les Français qui sont assez réducteurs en fait.
Ah oui.
Et moi je sortais finalement de toute cette période extrêmement dense. C'est pas les relations qu'on avait eues avec nos homologues, notamment anglais, avec qui on avait beaucoup travaillé. Donc j'ai simplement contacté l'éditeur en lui disant que quand il faisait ce genre de traduction, qui était finalement, pour quelqu'un qui s'intéresse au sujet, la seule chose qui était à ce moment-là disponible, et que c'était aussi réducteur sur le support français, il aurait peut-être dû expliquer ou demander à quelqu'un qui s'y connaît d'apporter un autre éclairage que celui qui est dans le livre. Et donc il m'a simplement dit que si un jour je trouvais quelqu'un qui voulait parler de ça, les pilotes dans l'armée de l'air, il l'éditerait. Et je l'ai pris au mot, on est parti là-dessus, et on s'est lancé dans le projet d'écriture.
Et ça vous a pris combien de temps d'écrire le livre ?
Alors, la partie écriture en elle-même, quasiment un an et demi. Voilà, le temps
quelque chose.
C'est quelque chose que j'avais pas bien mesuré.
Ouais.
Voilà, en termes
je pense que
de
c'est
temps.
Ça que vous étiez à mon avis.
Non, mais une fois de plus, entre les premiers jets et puis ce que je voulais, moi, qui ressort de l'ouvrage, forcément, comme j'ai pas de formation d'écrivain, je me suis entouré notamment de Frédéric Lert, qui est un journaliste spécialisé dans l'aéronautique, qui m'a un petit peu orienté et donné son avis sur les différents chapitres. Mon épouse a relu chacun des chapitres, puisque ça reste un livre assez technique,
Il doit être accessible quand même du grand public.
Alors voilà, on a considéré que les chapitres étaient bons lorsque, nos épouses respectives, puisque Frédéric a mis aussi à contribution son conjoint, lorsque nos conjoints nous ont dit voilà, on commence le chapitre, on a envie de le finir, on comprend la trame globale, l'histoire, on va dire tout ce qu'il y a de suspense sans forcément comprendre tous les acronymes, on a estimé que le chapitre était bon.
D'accord.
Voilà, ça c'était un travail d'équipe.
Bon moi j'ai bien compris et pourtant je suis pas une professionnelle donc c'est que c'est réussi.
Voilà, et donc c'est vraiment pour expliquer, je voulais sortir des clichés, sortir de ce qu'on peut raconter à droite à gauche et puis vraiment expliquer le parcours tel que moi je l'ai vécu, ça reste mon parcours hein. On pourrait peut-être en discuter avec d'autres personnes qui l'ont vécu de façon totalement différente, mais il y a pas que le vol, il y a la famille, la carrière, les contraintes. Voilà, je voulais vraiment expliquer comment ça se passe un petit peu dans la vraie vie, en tout cas la mienne.
Oui,
voilà.
C'est ça. Bah, justement, je voulais en parler un peu donc, des opérations, comme vous dites. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette période de l'Afghanistan et du coup, à la fois, qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que ça vous a appris tout simplement sur vous-même et sur votre carrière, et aussi cette frustration que j'ai trouvée hyper intéressante.
Alors, la frustration, elle est née essentiellement comment expliquer ça ? J'allais dire essentiellement du matériel qui a beaucoup évolué en 10 ans, mais c'est vrai que quand on y est allé les premières fois, mais c'est pas spécifique à l'armée de l'air, on s'est retrouvé dans un conflit où il fallait aider de façon très spécifique des gens au sol dans des situations qui souvent avaient dégénéré, avec des imbrications, avec j'allais dire une compréhension d'en haut qui était parfois difficile à avoir, des gens qui hurlaient à la radio, on entendait les tirs. Donc et ces gens-là comptent sur nous pour les aider, et donc il a fallu que les armées s'adaptent pour trouver finalement à la fois des capteurs, des transmissions, des armements qui s'adapte au fil du temps. Oui, et donc effectivement
parfois,
au début
vous saviez pas quoi faire parce que vous compreniez pas bien le
voilà
ce
donc
qui se passait, quoi.
Tout l'enjeu ça a été d'arriver à comprendre complètement ce qui se passait au sol pour pouvoir aider ces gens là et donc c'est vrai qu'il y a des fois où quand les radios ont pu poser quelques petits soucis le temps que tout se mette parce qu'on est on part dans une logique on va dire de d'adaptation du matériel mais ça va jamais assez vite avec la façon dont ça évolue sur le théâtre donc tout a évolué au fil du temps et les dernières années, on avait pleinement le matériel qu'il nous fallait. Mais effectivement, au début, on s'est retrouvé parfois dans des situations, mais une fois de plus, c'était pas que nous.
Bien sûr.
Où il a fallu, ça a pris un peu plus de temps que ce que les personnes attendaient au sol pour arriver à faire le tri. Voilà.
Et par rapport à toutes vos années d'études, une fois que vous y êtes, que c'est la vraie vie, que vous êtes sur le terrain, c'est quoi la différence réelle? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous êtes dit c'est l'aboutissement? Je suis là pour ça. Est-ce qu'au contraire il y avait une fierté? Est-ce qu'au contraire en fait vous êtes rendu compte que c'était hyper dur?
Ça a été un aboutissement après coup quand je suis intervenu. Alors pas forcément en larguant des bombes, mais en faisant des passages à basse altitude, en faisant du bruit. Souvent on a beaucoup aidé les gens au sol par le simple bruit des avions, puisque du coup. Les gens en face savent qu'il y a du support qui est là. Je dirais la fierté, la satisfaction. Souvent, ça a été au retour du vol, dans les échanges qu'on a pu avoir avec les gens qu'on a aidés au sol. Et quand ils vous expliquent que si vous n'étiez pas venu, en fait, ça aurait pu être beaucoup plus grave, voire dramatique. Là, il y a une vraie reconnaissance, on va dire, et une fierté. Et puis, je parle beaucoup de cohésion, hein, mais ça reste une aventure humaine, donc on participe à quelque chose qui nous dépasse un petit peu quand on est dans ces conflits-là. Et on est plus sur la partie vraiment dernier maillon de la chaîne, hein, celle qui fait le boulot sur le terrain. Et donc, il y a une communauté d'esprit qui se crée avec les gens à l'escadron, avec les autres escadrons, les autres nations, les gens qu'on a aidés au sol. Et donc, le terme est toujours un peu, j'allais dire, usité, mais on sent vraiment qu'on devient quelque part des frères d'armes et ça donne quelque chose de très gratifiant et ça c'est quelque chose qui moi m'a beaucoup touché. Après est-ce que j'ai considéré que c'était l'aboutissement? Forcément on s'entraîne tous les jours
pour ça quand même
donc là il y a un vrai stress dans la préparation, dans l'environnement parce qu'on n'a pas le droit de se rater. Voilà, il faut être au niveau à l'utilisation du matériel, la grosse barrière qu'on a eue au début, mais on a beaucoup travaillé dessus, c'est l'anglais, l'américain. Voilà, donc on apprend l'anglais chez nous.
Ouais, mais c'est
quand
pas
vous
pareil.
Avez des Américains au sol avec dans certains, je reprends toujours l'exemple du texan.
le fameux quand, texan quand, qui parle avec son
voilà,
texan,
mais,
qu'on comprend
mais
rien.
En fait, tout est normalisé, les procédures sont normalisées, tout est codifié. Et puis on se rend compte que quand les gens sont dans une situation d'urgence, de stress, ou que leur vie est en jeu, finalement, le naturel reprend le dessus et ils s'expriment à la radio comme ils vous parleraient dans la rue. Et là, en fait. Il faut
que le fait d'avoir été bon en langue plus jeune était utile.
Exactement, voilà. Et oui, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous ne pouvez pas les
problème.
Aider.
Et donc, vous êtes resté, vous avez fait plusieurs missions. Est-ce que vous pouvez me rappeler en quelques mots quelles sont les missions que vous avez faites?
J'ai suivi, les gens de ma génération, on a coutume de s'appeler la génération Afghanistan, parce que c'est vraiment le conflit qui nous a accompagnés pendant nos années d'escadron opérationnel. Donc moi j'ai fait plusieurs détachements là-bas. C'est vraiment
en général c'est combien de temps à chaque fois?
Alors un détachement c'est deux mois et demi maximum. Alors il faut l'expliquer quand même parce que les autres armes typiquement quand elles se déploient c'est pour 4 ou 6 mois. Nous on a en fait tout simplement un volume annuel d'heures de vol qu'on ne doit pas dépasser, c'est budgétaire. Et donc sur les 2 mois on fait quasiment la moitié de notre allocation annuelle. Et donc, on est obligé de continuer à s'entraîner en métropole. Hein. Quand je dis c'est de l'apprentissage, c'est aussi l'entraînement. C'est-à-dire que si vous volez pas au moins 3-4 fois par semaine dans votre Mirage 2000, vous perdez les réflexes, tout simplement. Voilà, c'est comme un sportif, en fait, qui va entraîner ses muscles.
Oui, c'est comme un sportif, exactement.
Donc, à partir de là, on est obligé de garder, on va dire, un reliquat d'air de vol qui nous permet d'avoir une activité raisonnable en métropole pour qu'on puisse repartir En gros, c'est tous les 4 ou 6 mois que les gens sont redéployés avec un niveau acceptable.
Et là, vous voliez à peu près combien d'heures par jour? Du coup, je ne me rends pas compte quand vous étiez
sur un détachement. Ça dépend des détachements. On va dire un détachement en Afghanistan, c'est un vol tous les 2 ou 3 jours. Ça dépend de l'intensité des opérations. Par contre, c'est des vols de, entre 4 et 8 heures.
Ouais, c'est extrêmement
et,
long.
Et avec entre 2 et moi, j'ai fait jusqu'à 8 ravitaillements en vol. Voilà. Et la journée la plus dense, je la raconte en 2012, où on est resté 6 heures en vol, mais on est allé en appui quasiment d'une dizaine de situations qui dégénéraient. Donc, on a fait la boule de billard au-dessus du pays, mais comme toutes les autres patrouilles, parce que ce jour-là, c'était compliqué. Voilà.
Et ça, rester 6 à 8 heures dans votre Mirage 2000, mais c'est quelque chose que vous, sur lequel vous étiez entraîné quand même, ce côté plus marathon et non pas sprint ou petite course, si on reprend la métaphore du sport. J'ai l'impression quand même qu'on passe de 1h30 d'entraînement quand vous étiez en école à tout d'un coup 4 à 6 heures, faut tenir dedans. Enfin, je sais que c'est, j'imagine que c'est énormément de concentration, même si vous êtes très habitué, qu'il fait chaud, que les conditions physiques sont très difficiles et très denses.
Alors finalement, le siège n'est pas si inconfortable que ça. C'est l'espace qui manque un petit peu. Donc après, on apprend à se connaître.
Ouais.
On développe tout un tas de stratégies, comme pour le stress en fait. Hein, c'est les mises en situation. On arrive à sentir quand ça va devenir dense et où il va falloir aller vite et être concentré. Et on va profiter des 10 minutes de transit pour rejoindre un ravitailleur pour se relâcher et puis manger sa barre énergétique, boire 2-3 gorgées d'eau. Ensuite, c'est de nouveau la concentration pour ravitailler, parce que là, de toute façon, il faut aller chercher le panier. Hein. Et puis après, en général, quand on est appelé sur une situation, on sait qu'il faut qu'on y aille le plus vite possible. Mais on avait toujours un petit peu de temps pour se canaliser mentalement.
Relaxer,
c'est après l'action. C'est vraiment après l'action qu'on prend un peu de temps... Pour rediscuter dans l'avion, c'est là où on passe du dialogue vraiment très formaté qu'on peut avoir dans la phase de mission un peu dense à un dialogue entre camarades du même escadron. Et puis après, de toute façon, quand on repart sur une situation où ça devient compliqué, on se conditionne dans l'avion. Voilà. Mmh. Et là, on repart sur un autre. Et c'est souvent après le vol, après le débriefing, qu'on prend le coup de massue.
Ouais. Voilà. Bon, il n'y a pas d'émission non plus, peut-être tous les jours.
Non, mais les équipes sont faites finalement. Qu'il y ait une rotation. Qu'on ait une fois par semaine au moins une demi-journée, voire une journée de repos. En opération, il n'y a plus de week-end, il n'y a plus de. Quand on est dans le. On travaille en fait dans la continuité pendant ces deux mois et demi. Donc en fait, il faut quand même qu'on laisse de temps en temps aux gens de quoi relâcher un peu la pression, qu'ils aient une journée pour. J'allais dire faire du sport, appeler chez eux, voilà. Donc,
ça, quand on lit un peu des livres ou qu'on entend des militaires parler de cette période où ils sont en mission, ils sont complètement quand même coupés du monde, même si vous avez accès à des téléphones, etc. Mais quand même, globalement, vous êtes un peu dans votre bulle avec tous vos collègues et vous avez votre mission tellement précise. Qu'est-ce que ça fait le jour où vous rentrez en métropole? J'imagine que ça doit être quand même à la fois un soulagement, ça doit être très bizarre en fait, cette sensation d'être propulsé dans un endroit complètement fermé, puis tout d'un coup vous en sortez. Il n'y a pas un manque aussi?
Alors il y a évidemment la joie de retrouver ça, ses proches, hein, c'est indéniable. Après, il y a, j'allais dire, le décalage entre une mission que vous venez de faire au-dessus d'un territoire où vous menez les opérations. Et puis 48 heures plus tard, vous êtes dans une grande surface en train de faire les courses en famille.
Parfois, vous avez des moments où vous regardez et vous dites, mais en fait, ma vie est un peu absurde.
Pas absurde, mais ça fait partie aussi des on en prend l'habitude. Mais c'est vrai que le décalage peut être déstabilisant. Après, quand on rentre comme ça, c'est vraiment des runs de 2 mois. Comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de période de repos. On est toujours une activité en permanence, hein, préparation, vol, débriefing, préparation du vol des journées suivantes. Donc on rentre dans un rythme finalement où il y a une routine et une fatigue sûrement qui s'instaure mais qui devient naturelle, qui est pas du tout gênante, voilà. Et quand on rentre en métropole, pour moi, en tout cas, il fallait une bonne semaine vraiment de réadaptation à la fois au rythme familial, au rythme temps de paix. Et comme on sait qu'on va repartir, parce que c'est assez rythmé, au niveau des unités. Voilà, on sait que c'est la pause dans laquelle on va se ressourcer, se réentraîner sur des missions qu'on n'a pas fait non plus pendant ces deux mois-là, parce que c'était très spécifique. Reprendre vraiment une bouffée d'air familial.
Et si on revient sur les quelques enseignements, enfin j'imagine qu'il y en a beaucoup que vous avez pu tirer de cette période, j'imagine qu'ils sont différents des enseignements qu'on a quand on apprend et vous avez appris la discipline, enfin vous avez appris toutes ces choses. Si vous aviez un grand enseignement que vous aviez tiré de ces opérations, pas forcément celle d'Afghanistan, d'ailleurs ça peut être la Libye, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, que vous avez retenu et que vous gardez dans votre cœur, quoi ?
Je dirais que donc moi j'ai vraiment fait une première phase, on va dire assez longue en escadron de chasse avant de partir comme instructeur, voilà, qui quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Pour avoir commencé par l'aéroclub et donc ce premier instructeur qui m'a marqué à vie. Donc je me voyais bien dans ce rôle-là. Et je dirais que finalement, on est dans le tuyau de formation, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qui nous attend après. Et quand on revient comme instructeur et qu'on a vécu tout ça, on voit chaque élève avec lequel on vole, finalement, on le projette 3-4 ans plus tard et on sait ce qu'il attend. Et du coup, ça fait aussi partie du jugement qu'on peut porter sur eux, notamment en termes d'adaptation, en termes de technicité, en termes de travail. C'est là aussi où finalement, en les projetant, en sachant les difficultés qu'ils vont avoir, qu'on se rend compte de la meilleure façon dont on souhaiterait les éduquer. Voilà, ça c'est vraiment ce qui m'a marqué après ces années-là. Et ce que j'en ai ressorti, c'est le jeune de 21 ans qui finalement connaît pas grand chose à la fois de la vie et de ce qu'on attend de lui. Est-ce que cette personne-là fera l'affaire dans 4-5 ans quand je vais l'envoyer au combat?
Une dernière question pour revenir sur les opérations. J'ai lu un passage dans votre livre que j'ai trouvé assez fort et j'avais juste envie de le lire et que vous m'en parliez parce que j'ai trouvé que c'était assez impressionnant. En fait, donc vous êtes commandant de bord et comme on l'a dit, être commandant de bord, ça veut dire avant tout être responsable en fait de ce qui va se passer et d'autant plus quand c'est sur des opérations. Et vous dites, le stress ne venait pas de la peur de mourir, mais de la rapidité des actions à mener, de décisions prises en l'espace de quelques secondes. Dans nos cockpits, nous étions immergés au cœur des combats, là où les équipages étaient le dernier maillon de la chaîne, ils endossaient la responsabilité technique du tir et en cas d'échec, ils devaient répondre de leurs actes. Et donc en fait, je trouve que cette notion de responsabilité, on en a parlé, c'est clairement visible en fait dans votre texte. J'imagine que alors que vous aviez déjà la responsabilité, vous aviez cette notion de responsabilité quand vous avez appris, une fois que vous êtes sur le terrain, que vous avez des civils en bas que vous devez protéger, que vous avez peut-être la crainte aussi d'ailleurs de, je sais pas, tirer sur les mauvaises personnes. Est-ce que vous pouvez me parler d'exemples peut-être ou de quel est le sentiment que vous avez quand vous avez à prendre des décisions comme ça où vous êtes peut-être pas 100% sûr de prendre les bonnes décisions? Qu'est-ce qui se passe et comment vous prenez ces décisions?
Alors, déjà, le c'est pas commandant de bord, parce qu'on est commandant de bord chacun dans notre avion, mais c'est chef de patrouille.
D'accord.
C'est-à-dire le responsable chez nous, c'est la personne, on va dire, la plus expérimentée.
D'accord.
On parle plus de grade, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelqu'un de moins gradé qui a plus d'expérience qu'une personne qui est plus gradée, mais c'est celle qui a le plus d'expérience qui va être un responsable de la mission et conduire la patrouille. Après, le passage que vous citez, finalement, il est là pour illustrer que la grosse spécificité de notre travail dans ces situations-là, c'est qu'effectivement, ça va très très vite. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez suivre une patrouille qui évolue le long d'une crête ou dans un village, et quand elle se retrouve sous le feu ennemi, en fait, il n'y a pas eu un coup de fil dans 10 minutes, on va tirer. Quand ça arrive comme ça. Voilà. Et donc là, vous plongez au cœur et vous savez qu'il va sûrement se passer des choses. En revanche, le maître mot de tout ça, c'est vraiment, on parlait de recul par rapport aux pannes, on est dans la même logique, c'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit. Avant de faire quoi que ce soit et de faire de mener une action qui pourrait être dramatique à la fois pour nos hommes et puis pour des civils, eh bien on va prendre le temps, de comprendre ce qui se passe. Et il n'y a pas d'actions qui sont menées finalement, surtout des actions de feu,
de façon
où on va pas le faire quand on n'est pas sûr à 100% de savoir où sont les uns et les autres.
C'est rassurant.
Voilà. Non, mais ça, c'est important de le dire.
Ouais, bien sûr.
Donc, si ça prend deux minutes, parce que tout est clair, ça prend deux minutes.
J'allais vous demander le temps.
Si ça prend dix minutes de discussion, à la fois au sein de la patrouille, ce qui se peut très bien qu'il y en ait un qui ait tout compris, et un avion qui était sur une autre fréquence à ce moment-là, ou qui a compris que des bribes de messages à qui il faut réexpliquer. Dans tous les cas, on échange d'un avion à l'autre pour savoir qui a le mieux compris.
D'accord.
Et après, dans l'échange très formel avec les gens qu'on a à soutenir au sol, s'il y a le moindre doute, et ça c'est un principe de base en aéronautique, quand on a un doute, on lève le doute. Voilà. Et quand tout est clair pour tout le monde, là on va pouvoir mener l'action. Et toute la difficulté, c'est effectivement que ça se fasse le plus vite possible.
Ouais.
Voilà. Et donc là, effectivement, des fois, c'est...
Et il y a quand même une personne, le chef de patrouille, donc, qui prend la décision au final donc, de lever le doute, comme vous dites, ou comment ça se passe ?
Alors, j'insiste bien sur le... On va parler justement de on parlait du tir, la réussite technique du tir, c'est-à-dire que ce sont les appareils qui doivent assurer le bon guidage de leur armement jusqu'à la cible. Voilà. Après... Le déclenchement du tir entre dans un processus extrêmement complexe et classifié que je ne pourrais pas décrire ici, mais qui sont les règles d'engagement, où avant de déclencher ce tir, on a levé tout un tas, on va dire, de sécurité pour pas faire justement de bêtises, hein, tout simplement. Et une fois que toutes ces sécurités qui correspondent aux règles d'engagement sont levées, on passe effectivement au tir, à la partie technique. Et là, on a toujours, quand on délivre l'armement, la crainte qu'il y ait un problème technique, c'est...
Une dernière question à ce sujet, si vous pouviez revenir en arrière et parler au Marc qui va partir en mission en Afghanistan ou même peut-être au Marc qui rentre au pipi de l'air, je ne sais pas, une période de votre vie, en tout cas il y a 20, 30 ans, qu'est-ce que vous lui diriez ?
Je lui dirais, mets-toi à travailler plus tôt, ça t'évitera de perdre une année de première, et puis je m'y suis repris deux fois pour réussir le concours. Et après, globalement, dans le parcours, je dirais, d'enfance, d'adolescence que j'ai eu, je changerai pas grand-chose. Ça s'est déclenché comme ça, ça reste au final l'aventure d'une vie. C'est une expérience, j'allais dire, pouvoir vivre de sa passion, finalement découvrir un métier qui est loin des clichés, pas forcément celui qu'on attendait. Alors au niveau des sensations en vol, oui, parce qu'on vous donne des machines qui sont fabuleuses, hein. Mais après au niveau des missions, c'est pas forcément. Et puis finalement, la réalité a dépassé tout ce que je pouvais imaginer. Donc je lui dirais, vas-y, fonce, voilà.
Vous avez parlé de clichés à l'instant. C'est quoi les clichés qui vous irritent le plus ou qui sont les plus faux et que vous entendez le plus souvent sur votre métier ?
Ah ben il y a toujours l'aspect extrêmement réducteur du beau gosse dragueur et puis des on va dire
cette
image cette image de du gars qui finalement prend son avion va s'amuser avec le donne à son mécano qui doit le réparer derrière et puis derrière lui il va avec ses camarades boire quelques bières au bar. En fait c'est tellement loin
de l'investissement et du travail.
Et du travail, voilà.
Et puis l'équipe aussi, vous parlez très souvent d'ailleurs.
Cohésion, c'est vraiment une aventure humaine, hein, à la base.
On sent bien d'ailleurs dans vos livres que c'est à la fois les pilotes, mais qu'en fait, sans le personnel navigant, donc tant le navigateur, donc la personne qui vous aide à vous retrouver, faire des navigations, tant aussi bien évidemment les mécanos, enfin ça doit être assez crucial.
De toute façon, un escadron, en tout cas les escadrons que j'ai connus moi, parce que les formats ont un peu changé, mais quand vous partez en détachement, c'est une deuxième famille qui évolue ensemble. Et dans, j'allais dire, toujours l'aspect formation, finalement, qui est assez important, on peut être le meilleur pilote au monde. Si vous n'êtes pas sociable et qu'on a un doute sur le fait que l'équipe va vous accepter, on ne vous prendra pas non plus. Parce que c'est un métier où vous rentrez dans une équipe et l'équipe, déjà, il faut faire vos preuves.
Oui, et puis
et là-dessus, les premiers escadrons, enfin le 3-3 Ardennes où j'étais au départ, m'a rapidement fait comprendre qu'il fallait vraiment que je fasse mes preuves. Un petit clin d'œil à cette formation rude, mais superbe au final, hein. Mais rude au départ. Donc, il faut montrer qu'à la fois on peut vous faire confiance et que vous allez vous intégrer au sein de l'équipe et que les gens vont pouvoir vont avoir envie de partir en vol avec vous lorsque vous serez leader parce qu'ils font confiance à vos capacités techniques de pilote, mais aussi à vos capacités de décision et à votre sérieux. Voilà, et tout simplement. Ouais.
Pour finir, je voulais parler en quelques mots, je vais pas vous gêner, mais de votre vie personnelle un peu plus. Et notamment, ça m'intéressait beaucoup de savoir comment vous aviez fait justement pour avoir une vie personnelle, dans la mesure où on se dit, vous êtes militaire, vous avez énormément travaillé. C'est un métier, en fait, qui s'arrête jamais. Vous l'avez dit vous-même, c'est un métier passion. Vous partez en plus en opération assez régulièrement. Quelles sont selon vous les recettes un peu du succès dans ce domaine-là? Parce que donc j'ai compris que vous aviez une épouse, des enfants, enfin voilà, ça se passe plutôt bien.
Une vie normale.
Et en fait, c'est pas forcément l'image qu'on a, comme vous le disiez, du pilote de chasse. En fait, on se dit qu'il est, comme vous dites, dragueur et oui. Dragueur et plutôt célibataire.
Il y en a.
J'imagine.
Traditionnellement, on insiste quand même sur l'équilibre de vie qui est très important, en tout cas qui l'est pour moi et pour la plupart de mes camarades, sur ce qu'on appelle nous la base arrière. Alors, elle n'aime pas forcément ce terme-là, mais qui est vraiment l'assise familiale. Hein. J'ai l'habitude de dire que pour être bien dans sa vie, hein, il y a vraiment les trois piliers, le pilier professionnel. Donc vous devez être en confiance, bien dans votre boulot. Vous avez le pilier santé, voilà, il faut être en bonne santé, et vous avez le pilier familial, voilà. Et en tout cas, pour mon équilibre à moi, il me faut ces trois piliers qui soient robustes, voilà. Et après, s'il y en a un qui vacille, parce qu'une vie c'est pas linéaire,
bien sûr,
et qu'il peut y avoir des soucis dans l'un comme dans l'autre, il faut qu'il y en ait au moins deux qui soient capables d'assurer, on va dire, la stabilité de tout ça. Et c'est vrai que moi je me repose énormément sur le pilier familial, tout simplement. Voilà, donc on s'est rencontrés quand moi j'étais déjà à l'escadron, donc elle m'a pris avec mon flot
de
contraintes. On en a beaucoup parlé, savoir un petit peu ce qu'elle est. Voilà, c'est une discussion aussi après, j'allais dire de vie de couple. Donc elle connaissait les contraintes, elle en a subi d'autres après parce que c'était les aléas des opérations. Mais dans tous les cas, voilà, déjà on est tombé amoureux et puis ensuite. Elle a accepté ces contraintes-là et bien compris que de toute façon, il fallait que moi, je puisse me reposer sur elle dans les moments où j'allais partir, ce qui l'a pas empêché de mener une carrière professionnelle à côté. Voilà, c'est une question, j'allais dire, une fois de plus de compromis, de là où on place le curseur. Et je dirais qu'une des grandes qualités que j'essaye de parler aux jeunes quand je les briefe aussi, c'est ce que j'appelle la capacité à compartimenter, c'est-à-dire à laisser les tracas familiaux à partir du moment où on commence à faire une mission aérienne et à pas ramener les tracas du travail forcément à la maison pour éviter le parasitage.
Vous savez, je travaille avec mon mari, donc j'ai du mal à compartimenter, mais j'essaye de le faire et je pense que c'est très très sage. Alors j'imagine que dans votre cas, en plus, se mettre à penser à ses soucis et à l'engueulade du jour d'avant quand on est en train de piloter, c'est juste pas envisageable. Mais à l'inverse aussi, vous pouvez pas non plus parler tout, même à votre épouse, et donc c'est assez nécessaire, quoi.
C'est ce qui a été que j'avais pas non plus mesuré avec le premier livre qui est sorti en 2013, La guerre vue du ciel, où finalement c'est en relisant les chapitres qu'elle a validé, qu'elle a vraiment pris la pleine mesure de ce qu'était ma vie professionnelle. Parce que c'est vrai que déjà, c'est extrêmement compliqué à expliquer. Quand les gens le vivent pas, hein, on partage beaucoup entre nous, mais expliquer que vous avez décollé le vendredi matin, que vous avez fait une mission tactique dans le Massif central, que vous êtes allé ravitailler au-dessus de Perpignan et que ensuite vous êtes allé faire du combat aérien du côté de Colmar et que vous êtes posé 4 heures plus tard et que vous avez fait tout ça en 4 heures. En fait, vous avez traversé la France en long, en large, en travers et que le soir à 17h, vous prenez votre voiture pour partir à Montpellier dans votre passer des vacances et qu'il vous faut 8 heures pour arriver là-bas. Voilà, c'est des choses, quand on les vit pas, c'est difficile à partager, mais je pense qu'elle a pris vraiment... c'est pour ça qu'elle a aussi adoré participer au projet. Elle a compris finalement ce qu'avait été ma vie professionnelle. Donc voilà, un équilibre là où on place les curseurs, se préserver, et puis je dirais une fierté et un respect mutuel, une grande confiance évidemment au sein du couple pour ce genre de vie, et puis voilà, une affaire qui roule.
C'est le plus important. Super. Bah écoutez, Marc, merci mille fois en tout cas pour tout le temps que vous m'avez consacré.
Merci à vous.
On l'a évoqué à plusieurs reprises, mais je vais redire donc que je recommande vivement vos deux ouvrages. D'abord, La naissance d'un pilote, donc qui parle de tous vos débuts et de comment vous êtes lancé en fait dans cette carrière et de vos études. C'est le premier livre d'ailleurs que j'ai lu et vous m'avez dit que c'est a priori, même si c'est le deuxième que vous avez écrit, il vaut mieux commencer par celui-ci comme ça.
J'ai écrit à la demande des lecteurs du premier qui voulaient savoir comment, parce que le premier est sorti chronologiquement, comment ça m'en arrivait à l'escadron.
Ouais.
Et les retours que j'ai eus me demandaient comment j'étais arrivé jusque-là.
Donc on sait tout avec La naissance d'un pilote. Et le deuxième, La guerre vue du ciel, qui est je dirais encore plus marquant et fort quand même, parce que vous êtes là sur le terrain et sur le théâtre des opérations. Donc les deux m'ont vraiment fait voyager et ça a été un grand plaisir du coup de vous avoir avec moi. Je trouve que c'est aussi un vrai hommage sincèrement aux très nombreuses équipes, et vous le dites souvent d'ailleurs, qui travaillent dans l'armée de l'air et dans l'armée de façon générale, dont on parle pas beaucoup parce on a cette image d'Épinal des pilotes, mais il y a aussi tout le reste qui est très important. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter, une petite chose que vous aviez envie de dire qu'on n'a pas balayé avant que je vous laisse tranquille.
Je dirais simplement que la lecture du livre, c'est vraiment mon parcours à moi. Chacun a son parcours un peu particulier. Le mien pourrait paraître peut-être un petit peu difficile. Il y a d'autres voies pour rentrer dans un cockpit militaire. Je ne peux qu'encourager les jeunes en ce moment à venir et s'engager. Je fais un peu le sergent recruteur, mais vraiment, on est dans une phase en ce moment où on a rehaussé le nombre de places disponibles.
C'est le moment ou jamais.
Donc, sur les années qui viennent, c'est vraiment maintenant ou jamais.
Ouais.
Voilà, vraiment. C'est l'aventure d'une vie, c'est tout un ensemble, c'est l'assurance vraiment d'une vie extraordinaire.
Ouais.
Avec, participer finalement à l'activité, à l'actualité du moment, participer à la défense de son pays aussi, avec, l'éthique, les valeurs, voilà, c'est quelque chose de très gratifiant. En tout cas, moi, j'ai passé les 24 plus belles années de ma vie et j'espère que ça va se poursuivre. Voilà.
Et peut-être qu'en plus, si jamais vous rentrez un jour en école, donc pour l'armée de l'air ou à l'armée de l'air en formation, que vous tomberez en plus sur Marc comme instructeur. Donc,
oui.
Faut pas hésiter.
Faudrait demander l'avis aux élèves.
Ça, je sais pas. Ça marche. Merci mille fois, Marc.
Merci à vous de m'avoir invité.
Si jamais juste des personnes qui écoutent ce podcast veulent vous contacter, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut le faire d'une certaine manière? Qu'est-ce que sur le web, par exemple?
Je suis personnage public entre guillemets depuis la publication des livres, mais après par les réseaux sociaux traditionnels.
Vous avez une préférence en général, c'est quoi? C'est Facebook?
Non, il faut juste être patient.
Ouais.
Parce que j'ai pas forcément accès.
Moi, j'ai été
patient
pour vous
y
avoir, donc.
mais il faut être patient. J'essaie de vraiment de répondre à toutes les sollicitations que je peux avoir, mais des fois ça peut prendre du temps parce que j'ai pas mal de contraintes où je suis pas forcément disponible à ce moment-là.
Ça marche. On en parle juste après et je mettrai ça sur les notes de mon blog pour que les auditeurs puissent éventuellement vous contacter s'ils ont des questions.
Bien sûr, avec plaisir.
Merci mille fois en tout cas, Marc.
Merci à vous.
À bientôt. Alors avant de vous quitter, je voulais aborder quelques derniers petits points en plus. D'abord, si vous cherchez les notes de cet épisode, les liens vers les livres de Marc ou son contact, même s'il a dit qu'il mettait parfois un peu de temps à répondre, il finit toujours par le faire, je peux en témoigner. N'hésitez pas donc à aller sur le site du podcast, donc qui est www.podcast-du6crème-de-la-crème.com. Vous allez dans la rubrique podcast et là, c'est bien simple, c'est l'épisode 12 qui est donc celui de Marc et vous aurez tous ces éléments. Je voulais en profiter aussi pour vous mettre le lien d'un site que j'ai trouvé très intéressant, qui est devenir-du6aviateur.fr, qui est un site donc de l'armée de l'air pour en gros donner des clés, des conseils à toutes les personnes qui s'intéressent au métier de l'aéronautique et de l'armée de l'air. Il n'y a pas du tout que pilote de chasse, il y a tous les métiers des personnels navigants. Et franchement, le site est très bien fichu, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ça si jamais ce type d'opportunité vous intéresse. Je pense que ça pourra vous faire gagner un temps précieux. Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer aussi de nouveaux invités, n'hésitez surtout pas à le faire sur Twitter, Instagram comme d'habitude, sous le pseudonyme Pelaignau, donc P-L-A-I-G-N-E-A-U, ou sinon, petite nouveauté, depuis peu sur le compte Instagram de Crème de la Crème, et là, c'est très simple, le pseudo, c'est Crème de la Crème sans accent, .podcast, vous devriez trouver facilement.
Enfin, et j'arrête de vous embêter, si le podcast vous a plu, si cet épisode vous a plu, le meilleur moyen de me le dire et de me soutenir, c'est tout bête, mais c'est de me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. En fait, ça fait une énorme différence. Donc vraiment, si vous avez un tout petit peu de temps, n'hésitez pas à le faire. Ça m'aide beaucoup, beaucoup et je vous en serai très reconnaissante. Voilà, j'espère que l'épisode vous a appris autant de choses qu'à moi. J'espère surtout qu'il vous a motivé, qu'il vous a donné des étoiles dans les yeux parce que je peux vous dire que moi, c'était le cas. Et comme à chaque fois, vraiment mille merci d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.